Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous. Bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Philippe Osney, pasteur, auteur, ancien aumônier de prison, aumônier et écoutant de l'association Osez en parler, expert sur le site c'estmavie.tv, chroniqueur sur le site pigeon-futé.com. Il exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Pasteur Philippe Osney, bonsoir.
Bonsoir Chantal et bonsoir à tous nos amis qui sont réunis ce soir pour écouter la voix de Dieu en quelque sorte.
Tout à fait. Alors, nous allons nous immerger ce soir dans la miséricorde de Dieu justement et nous allons la demander au Seigneur pour nos auditeurs et pour nous-mêmes bien sûr puisque nous en avons tous un immense besoin car sans la miséricorde de Dieu, nous resterions si misérables. Et nous invitons nos amis auditeurs à nous rejoindre au 01 56 56 44 00 pour témoigner justement des miséricordes du Seigneur dans votre vie et rendre grâce car elle est source de reconnaissance infinie et d'action de grâce, la miséricorde du Seigneur. Hein. Le Seigneur... Voilà, comment le Seigneur vous a-t-il touché, relevé par sa miséricorde? Et puis, nous allons la demander avec force, prière, supplication au Seigneur de la déverser en abondance ce soir hein, sur tous nos auditeurs. Et voilà, donc cette miséricorde du Seigneur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la miséricorde?
La miséricorde, alors, certains, et je l'ai déjà dit sur cette antenne, certains disent, et c'est une belle image, la miséricorde, c'est comme une corde que Dieu jette dans notre misère pour qu'on se raccroche à elle et qu'on puisse être sauvé de notre épreuve, de nos luttes, de ce qui nous fait mal. Je trouve que c'est une image merveilleuse.
Je comprends, oui.
Si on prend le dictionnaire, on verra que la miséricorde, donc c'est la pitié qui amène au pardon. Hein, la pitié qui amène au pardon. Alors, on pense quelquefois que la miséricorde est liée à un état de faiblesse de celui qui fait miséricorde, mais c'est faux.
Non, c'est pas. Oui.
Je crois que être miséricordieux, c'est démontrer sa puissance.
Je comprends. Oui.
La puissance de l'amour qui va jusqu'à tout effacer. Et en quelque sorte se dire c'est seulement si j'efface les torts de cette personne à mon égard qu'elle pourra s'en sortir et moi aussi.
Voilà, donc ça a un lien aussi avec le pardon.
Avec le pardon, hein, alors il y a un synonyme au mot miséricorde, c'est la clémence.
Ah oui.
D'ailleurs, on dit quelquefois d'un juge, il a été clément.
Oui, hein,
il a été clément.
On peut dire miséricordieux.
C'est ça.
C'est ça, oui.
Et c'est vrai que le titre de l'émission est parlant. C'est vrai que sans cette miséricorde de Dieu, personne d'entre nous n'aurait accès à la grâce de Dieu.
Oui.
Nous ne pourrions pas, et c'est l'apôtre Paul qui disait que le salaire du péché, c'est la mort. Hein, mais le don gratuit par Jésus-Christ, c'est le salut, etc., etc. Alors, sans miséricorde, donc, nous ne serions pas derrière ce micro ce soir, et nos amis qui nous écoutent ne seraient même pas là. Nous serions dans une culpabilité affreuse, un sentiment de culpabilité affreux, et je crois que nous n'arriverions pas vraiment à vivre notre foi chrétienne.
Ben oui. Hein. Nous serions restés comme Adam et Ève, enfin au moment de la chute.
Mais ils ont eu peur.
Et voilà, ils se sont cachés.
Ils se sont cachés. Et on voit que c'est Dieu qui se met à leur recherche. C'est parlant quand même.
Oui, oui.
C'est pas Adam et Ève qui, depuis le lieu où ils étaient cachés, vont faire un premier pas en disant oh, Dieu, on est là. Non, c'est Dieu qui se promène dans le jardin, les textes nous le disent, se promène, et puis il voit que, ben voilà, où sont Adam et Ève, et il les appelle.
Oui, oui.
Il les appelle. Et eux se replient dans une réaction de peur. Et là encore, c'est très parlant, parce que sans la grâce de Dieu, sans sa miséricorde, on reste dans la peur.
Oui.
Peur de la mort, peur de l'avenir, peur. Et Dieu sait qu'en ce moment, on peut avoir peur quand on voit nos pays qui s'écroulent.
Bien sûr.
C'est un écroulement général, c'est planétaire.
Oui.
Alors, c'est là que tout ce message de la miséricorde de Dieu prend tout son sens.
Oui.
J'allais dire que cette miséricorde va nous relever complètement. Et c'est immérité.
Oui. J'ai cette parole, Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché afin de leur faire à tous miséricorde.
Oui, c'est vrai, je l'ai lu ce verset également.
C'est ça, et ça me vient comme ça à l'esprit,
oui.
Voilà, à tous miséricorde, et donc on est solidaire.
C'est ça, alors il y a comme une pédagogie de Dieu qui a permis que l'être humain aille jusqu'au bout de l'impasse. Hein, c'est un cul-de-sac, il n'y a pas de
possibilité de s'en
sortir. Et le seul moyen de salut, c'est de saisir la main de Dieu.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce texte où Pierre marche sur l'eau. Il est très fier à cet instant précis parce qu'il y a ses copains, les autres apôtres, les autres disciples qui le regardent. Et au début, il fait le balèze. Et puis, voilà qu'il enfonce. Il prend peur. Là encore, on voit que la peur arrive encore là.
Ouais.
Il prend peur. Et c'est parce qu'il a peur qu'il enfonce.
Donc il est dans la confiance, ça va, il va...
Il est dans la foi, dans la confiance, et tout à coup il prend peur. Et j'ai souvent dit que la peur, c'est l'inverse de la foi.
Ah oui. Hein?
Maintenant, c'est bien humain d'avoir peur.
Bien sûr, hein? Oui.
Et tous, on a pris peur. Mais il y a un jour où il faut cesser d'avoir peur. D'ailleurs, je crois que c'était... C'était pas Jean-Paul II qui avait dit n'ayons pas peur.
Pontificat, voilà. Oui, il l'a répété. Oui. N'ayez pas peur, voilà. C'était la première parole.
Voilà. D'ailleurs, quelquefois, les gens disent oh, j'ai eu une peur paralysante. Hein.
Bah, oui.
La peur nous freine, nous paralyse et nous empêche
d'aller vers la vie.
Et c'est à nous de dire non à la peur, non pas en la refoulant, cette peur, mais en la regardant en face et en disant non, je n'aurai pas peur. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec moi. Et donc, j'y arriverai. Voilà, je ne tremblerai pas.
Et lui remettre tout, lui donner tout.
Tout lui remettre et là, rentrer à nouveau dans l'assurance. Hein. Alors cette assurance, Chantal, nous ne pourrions pas la garder si justement nous n'étions pas chaque jour au bénéfice de la grâce.
Bien sûr.
Et donc si nous n'avions pas un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu, ne l'oublions pas, c'est pas seulement au moment où pour la première fois on rencontre Dieu, chez certains c'est progressif, cette rencontre chez d'autres c'est fulgurant, c'est en un soir. Donc cette miséricorde, elle n'est pas agissante seulement à cette période de notre vie spirituelle, mais elle dure toute la vie.
Ben oui, elle nous accompagne.
Elle nous accompagne et il y a des moments où nous avons besoin de remettre le compteur à zéro, parce que nous avons commis à nouveau des péchés. Et nous avons besoin de nous mettre à genoux, de pleurer, de dire « Seigneur, voilà, bon, je reconnais le poids de mes fautes et pardonne-moi s'il te plaît. » Et là, tout à nouveau, voilà. Dieu nous gracie. Souvenons-nous de la parabole de l'enfant prodigue,
hein,
où tous les jours le Père sortait. Là encore, on voit que c'est Dieu qui fait le premier pas, toujours.
Toujours, oui.
Le Père sortait de sa maison, allait jusqu'à la colline, là, et il scrutait l'horizon pour voir si son fils allait revenir. Et déjà, il lui avait pardonné.
Oui.
Déjà, c'était fait.
Et avec persévérance. Hein,
il persévère. Il n'a pas un mot de reproche. Il n'a pas de jugement. Et on le voit tout au long de l'histoire biblique que Dieu est d'abord un Dieu miséricordieux. Alors, certains vont dire, oui, mais il y avait la loi. C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était quand même terrible à cette époque. Alors, oui, moi je crois que cette loi du talion, elle a été là pour éviter le pire. Hein, œil pour œil, dent pour dent.
On ne va pas plus loin. Enfin,
on ne va pas plus loin. Ça pouvait dégénérer.
Ouais, ouais.
Et que donc, pour.
C'était mettre une limite déjà à la violence.
Une limite à la violence, parce que l'homme est violent par nature et au lieu de se faire justice une fois, il se ferait justice deux fois, trois fois.
Hein. C'était pour limiter.
Oui, et non pas l'inverse.
Ouais.
Et non pas pour inculquer à la société une espèce de dureté, une rigidité. Voilà, Dieu a dit, tu n'as pas fait ce que Dieu a dit, donc tu vas mourir. On trouve bien des textes dans l'Ancien Testament qui disent je ne veux pas que l'homme meure, hein, mais qu'il vive.
Voilà.
Et ça, on le retrouve.
Choisis donc la vie.
Choisis donc la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et tout le long, on trouvera ça. Hein. Malgré que l'Ancien Testament, bien sûr, nous montre un Dieu quand même qui est exigeant. Je n'allais pas dire qu'il est dur, il est exigeant.
Oui.
Il est exigeant. Donc, il y a les 10 commandements. Hein. Tu ne feras pas ceci ou cela, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Il y a donc des exigences.
Hein. Oui, mais c'est pour que l'homme vive, justement.
Voilà. Et derrière, d'une manière cachée, mais quand on scrute les Saintes Écritures, quand on relit bien l'Ancien Testament, on voit que derrière ces exigences se cache toujours
l'amour.
La miséricorde de Dieu,
oui,
l'amour.
L'amour, oui.
L'amour qui fait grâce.
L'amour qui fait
et qui n'est pas un signe de faiblesse.
Non, bien
hein
sûr.
Je vais être grossier, mais j'entends souvent ceci dans la société, trop bon... Trop con, désolé pour le... Hein, bon, mais on est des Français, bon, voilà. Bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de se faire pigeonner quelquefois, donc on devient rigide et on s'enferme.
Mmh.
Mais la Bible nous rappelle toujours que le bonheur, c'est la bonté. Je veux dire, être heureux, c'est devenir bon.
Mmh.
C'est donner sa vie et quelque part... se sacrifier et y perdre.
Mais on ne peut le faire qu'avec Dieu, qu'avec cette force de Dieu. C'est par nos propres forces.
Ben non.
On en revient sans la miséricorde.
Par notre propre force, on est déçu une fois, deux fois, trois fois. Après, on ferme tout, on ferme les écoutilles, puis on dit ils n'ont qu'à aller se faire voir, les gens. Moi, désormais, plus de cadeaux, plus de pardon. Hein quand on dit c'est impardonnable.
Hein. Oui.
Impardonnable. Attention. Alors, humainement, oui, mais...
Avec Dieu,
tout peut être pardonné à condition qu'il y ait repentance sincère et regret et désir de réparer aussi le mal qui a été fait. Voilà. Alors donc, là, c'est un petit peu mon mot du début. La miséricorde n'est pas du tout un signe de faiblesse.
Hein ?
J'ai quelquefois dit aussi... dans des conférences ou des interventions, Dieu est injuste. Alors tout le monde me regarde quand je dis ça. Mais je dis, oui, Dieu est injuste parce qu'il nous pardonne, il nous fait miséricorde, alors que si Dieu devait exercer
la justice
réelle, eh bien nous serions punis. Et nous subirions vraiment le fruit de notre péché, c'est-à-dire la mort. Hein. Alors, je dis, il est injuste. C'est une manière de
provoquer aussi.
De provoquer.
Pour être attentif.
En fait, Dieu est juste. Mais dans cette justice, il y a justement le fait que l'homme ne pourra jamais y arriver tout seul. Et le fait que Dieu, donc le juge, prend sur lui la faute. Du coupable. Et je n'ai jamais vu cela dans les tribunaux humains.
Non, ça, non. Parce que humainement, c'est pas...
Il y a un code pénal, un code de procédure pénale.
Un juge qui prendrait sur lui, non.
Et voilà. Alors, certains juges, peut-être, ont développé des qualités de compréhension, d'empathie envers ceux qui ont commis des fautes, qui ont enfreint le code pénal. Bon, ils ont développé une humanité,
bien
ça on
sûr,
peut le dire.
Bien sûr,
il y a des juges qui ont vraiment du cœur.
Heureusement.
Heureusement.
Mm-hmm.
Hein. Mais il y en a d'autres, c'est paf, vous avez fait ça, vous ne deviez pas le faire. Voilà. Et donc vous êtes condamné à tant d'années de prison, voilà les mesures qu'on prend contre vous. Alors, c'est là où il y aurait besoin de miséricorde.
Mm.
La société peut très bien punir les coupables, mais prévoir ensuite, s'il se comporte bien, le coupable, s'il fait amende honorable, comme oui. on dit, oui. eh bien prévoir des décisions où la miséricorde oui, se, oui. se...
Parce que la sanction, ce qui est sanctionné, c'est l'acte. Hein, mais la personne doit pouvoir... Il ne faut pas qu'elle soit enfoncée, parce que si elle s'enfonce...
On a manqué notre
oui,
but.
Oui,
si la société punit quelqu'un et le rempire,
bah, oui.
elle a fauté davantage que celui oui, qu'elle juge.
Oui.
Et malheureusement,
oui.
les peines qui sont prononcées à l'heure actuelle, et je pense que les juges n'ont pas le choix, ils n'ont pas non plus tout un arsenal à utiliser pour punir les personnes qui sont jugées. Eh bien, on voit pratiquement malheureusement que les peines de prison qui sont prononcées contre les gens aboutissent à un mal-être ouais, chez ceux ouais, qui sont punis ouais, et ils récidivent. Le ouais. taux de récidive est impressionnant.
Ouais,
ouais. Ils refont ce qu'ils avaient fait avant et ce pourquoi ils ont été punis.
Il y a le livre du père Guy Gilbert des débuts, un des premiers livres.
Oui.
Des jeunes entrent en prison et des fauves en sortent.
Mais c'est la vérité. Moi, je l'ai vu. J'étais au milieu de prison pendant 13 ans.
Ouais.
J'ai vu ces tout petits dealers, ces jeunes de 19 ans, 20 ans.
Ouais.
Ils ont vendu un petit peu de shit.
Ouais.
Bon. Ils ont un petit peu fait du trafic, un tout petit peu. Bien, quand ils ressortent de leur peine de prison, ils sont devenus vraiment des gros dealers. Hein. Et ça, moi, je l'ai vu, je l'ai constaté. C'est quand même assez grave. Et tous les ministres de la justice qui se sont succédés depuis belle lurette ont toujours dit que la prison était la plus grande école du vice et du crime. Si ce sont les ministres de la justice qui ont dit cela...
Et dire qu'on ne trouve pas une autre chose pour pouvoir déjà rééduquer...
Je pense honnêtement qu'on peut trouver beaucoup oui. de choses.
Oui, oui.
On va peut-être en parler, si, oui. parce que je pense que là, il y a peut-être une...
Voilà, il y a...
Je vois que la technique, ça bouge.
Ça bouge. On ne va pas dire que ça s'affole, mais ça bouge.
Ah non, non, non.
Non, voilà. C'est dans la sérénité.
Il y a de l'activité dans le studio, on va dire.
Voilà, alors on va écouter tout de suite, c'est la Chapelle Royale, le Collège de la Chapelle Royale, et c'est le Et Misericordia Eius du Magnificat BWV 243 de Jean-Sébastien Bach.
Radio Notre-Dame.
Misericordia.
cet extrait du Magnificat de Bach, Et Misericordia Eius, Chapelle Royale Collegium Vocal. Donc ce soir, avec le pasteur Philippe Osney, nous avons donné comme titre à cette émission « Sans la miséricorde de Dieu, nous resterions si misérables ». Ça, c'est évident, évident. Alors, on évoquait, oui, ce domaine des juges de la prison. Certains sont plus ou moins, on peut dire, cléments, hein, oui, miséricordieux.
Oui. En tout cas, on peut se poser déjà une question au sujet de la justice humaine. C'est pourquoi elle porte si peu de fruits. Le fruit de la justice, à mon avis, c'est justement de pouvoir restructurer des vies.
Mais oui.
Restructurer les choses là où l'échafaudage
s'est cassé, réajuster la figure.
Or, dans la pratique, on s'aperçoit que, bon, certes, il y a des fruits quand même, mais ils sont minoritaires. Ouais. Les bons fruits sont minoritaires. Ouais. Des fauves en sortent, hein, dit Gilbert, ouais. Il a tout à fait raison. Beaucoup ressortent la haine dans le cœur. Pourquoi ? Ben, parce qu'on les a renfermés dans des cages à lapins. Moi, je ne connais pas un seul enfant qui aimerait subir cela. Et autrefois, et je l'ai été, on nous renfermait dans notre chambre, on nous renfermait à clé quand on avait fauté, avec un morceau de pain et un verre d'eau. Hein ? Et on nous disait, tu es au pain sec et à l'eau.
Oui.
Hein, il y avait déjà dans les familles cette notion d'enfermement.
Ouais, hein. Ouais.
Alors, je crois que si les Français voulaient vraiment se donner les moyens au niveau de la justice pour qu'elle porte de bons fruits, eh bien, cette population française le ferait. Mais il y a une histoire de gros sous derrière. C'est une histoire financière. Ça coûte cher. Ça coûte cher d'utiliser d'autres mesures que la prison. Je suis sûr qu'il y a des juges qui ne punissent pas à des peines de prison certains individus de gaieté de cœur. Je suis sûr qu'ils regrettent, certains regrettent de ne pas avoir d'autres moyens à disposition, des moyens efficaces. Hein. Mm-hmm. Ah, bien sûr, il y a le bracelet électronique, il y a la semi-liberté, il y a la libération conditionnelle, etc. etc. Mais c'est insuffisant. Mm. Hein. Et d'un côté, quand un ministre de la Justice dit « il faut vider nos prisons », ben, il a raison et il a tort. Il a raison parce que, ben oui, la prison c'est un pourrissoir, c'est une poubelle où on jette les gens comme des détritus, comme s'ils en étaient. Hein. Et donc ça ne porte pas de bons fruits. Il a tort également, le ministre de la Justice, enfin la ministre de la Justice, si il n'y a pas ensuite d'autres moyens planifiés. Qui vont faire que ceux qu'on aurait voulu faire passer par la case prison, passent par une autre case reconstructive.
Voilà, hein. Il y a besoin d'une reconstruction.
Alors, vider les prisons sans savoir où on va mettre les gens et tout, dans l'idéal, c'est peut-être pas mal, mais dans la pratique, on ne se donne pas les moyens, vraiment, ils sont financiers, hein, on ne se donne pas les moyens de faire mieux que ça.
Pourtant, on trouve les moyens quand on veut faire la guerre, par exemple.
Ah bah ça,
là, on trouve toujours les moyens.
C'est sûr. Je veux dire, on refera pas le monde, mais on pourrait faire des progrès quand même. On pourrait faire des progrès.
Oui.
Mais toutes les réformes au niveau pénitentiaire, judiciaire et pénitentiaire, toutes les réformes qui ont été amorcées. Ont été caduques au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que les Français ont peur. Ils ont peur.
Mmh.
Ils ont peur qu'on soit trop clément, qu'on soit trop gentil. Et ils réclament de la dureté, de la fermeté. Ils réclament des peines réelles, dures, quoi. Hein.
Oui, mais si c'est pour faire des fauves, c'est pas une solution.
Mais non. Et le pire, c'est que tout le monde le sait. Tout ce beau monde judiciaire et pénitentiaire, ils savent bien que la justice humaine mène à l'impasse, à l'échec. Sur tous les fronts. La justice humaine qui protège la société vis-à-vis d'individus dangereux, c'est formidable. C'est réussite, ce côté-là. Mais par contre, lorsqu'on on rend le fruit encore plus véreux.
Oui, ben oui.
Ben on a raté.
C'est sûr.
On a raté. Alors le monde pénitentiaire, c'est la plus grande entreprise de France qui n'est pas tenue d'avoir des résultats. Voilà. Qui n'est pas liée
oui.
à ça.
Oui, oui, oui.
On ne réclame pas, ce n'est pas une condition. Mmh. Hein, tandis que dans des grandes entreprises autres,
oui.
ben, quand un directeur est engagé, il a des objectifs et ça doit marcher.
Mmh.
Et il doit y avoir du bénéfice.
Oui.
Là, non, le monde pénitentiaire est bâti de telle manière qu'il n'est pas tenu à un bon résultat. Hein. Et donc, ben, alors, qu'est-ce qui se développe ? Ben, l'injustice.
Mmh. L'injustice. C'est vrai, dans tous les lieux d'incarcération, on peut dire... peut-être que dans les hôpitaux psychiatriques aussi.
Ben bien sûr.
Il y a alors, peut-être d'autres solutions que de.
Oui, que la camisole chimique.
Faut voilà, il faut protéger les uns et les autres. Mais...
C'est sûr. Alors là encore, ça coûte cher. Mm. Ça nécessite des personnels formés, etc. Mm. Mais il y a des choses magnifiques qui se font. Moi, je ne suis pas favorable de critiquer absolument tout ce monde de la justice et des prisons. Je dis simplement, attention, le résultat est insuffisant et on ne veut pas regarder les choses en face. Oui.
Hein. Parce que tout le monde en bénéficierait de.
Ben bien sûr, parce
d'un assainissement de
un délinquant qui rentre en prison et qui ressort guéri, j'allais dire entre guillemets, qui ressort du moins renouvelé, changé, ben j'allais dire c'est tout bénef pour la société.
Mmh.
Hein. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on voit ces jeunes qui ressortent de prison et qui, 15 jours plus tard, ils retournent parce qu'ils ont la haine dans le cœur. Mais on ne traite pas les choses. On les traite en aval, mais pas en amont.
Mmh.
Hein. Alors, on ferait bien mieux d'inculquer à tous ces jeunes qui vont devenir des délinquants, de leur réinculquer de leur inculquer des principes de base sur lesquels ils vont construire leur vie. Mmh. Et là, eh bien, c'est toute cette frange de la population va par l'éducation,
oui, c'est ça,
par des soins, de l'attention... eh bien, cette frange de la population ne va pas devenir délinquante.
Ouais.
Elle va mieux évoluer.
Oui, et s'intégrer aussi.
S'intégrer. Alors, c'est là qu'il faudrait cibler le plus nos efforts.
L'effort, oui.
Oui, dans la prévention.
Oui.
Et pas seulement une prévention intellectuelle, blablabla, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Non.
Mais
qu'on s'occupe vraiment des gens à problème. Et malheureusement, ce sont des associations chrétiennes, malheureusement et heureusement.
Oui.
Et malheureusement, c'est même plus l'État là, qui est compétent à ce sujet-là.
Ben oui.
Ce sont des associations chrétiennes qui se fondent sur la Bible.
Et sur l'amour,
l'amour. Et ce sont ces associations qui vont avoir le plus de bons résultats.
Ouais.
Ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Hein. Mais en tout cas, il y a du résultat. Moi, je l'ai vu.
Mais je pense, et je crois qu'on vous le connaissez aussi, je crois, donc c'est Jacques Yvon Thuin, qui était un truand, et qui a eu une conversion en prison, un retournement complet. Hein, et il a fondé une association, d'ailleurs, qui s'appelle Christ. Ce sont les initiales de... Voilà, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, hébergement, réinsertion, éducation, il y a tout un... Et donc, où il prend des sortants de prison, hein, et donc dans un cadre aussi de la nature, hein, pour, donc au point de vue effort physique, reconstituer aussi, aider le corps à reprendre...
le dessus.
La santé, le dessus.
La santé, oui.
Hein. Et puis, au point de vue aussi, il y a la Bible, hein, il y a la Bible qui est au cœur. Et puis, ils apprennent aussi à faire un CV, hein, le côté pratique. Pour se réinsérer, ils apprennent à conduire s'ils ne savent pas, pour pouvoir avoir en main un certain nombre de... d'outils hein, pour pouvoir se réinsérer, mais sur une base de spirituelle.
Oui. Et on parle de réinsertion, mais en fait, la plupart de ceux qui rentrent en prison et qui ont commis des délits n'étaient pas insérés dans la... Je parle vraiment de ceux qui sont fortement touchés par des problèmes éducatifs et tout ça.
Oui.
Eh bien, ils n'étaient pas insérés vraiment dans la société.
Ben oui.
Alors, on parle de réinsertion. C'est l'insertion. Alors là, il y a un gros travail à faire. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais il y a un très gros travail à faire. Et la société est bien hypocrite quand elle juge des jeunes qui n'ont pas bénéficié d'une vraie éducation de la part d'un papa et d'une maman. Elle est hypocrite quand elle les accuse et qu'elle les incarcère.
Ben oui.
Elle ne fait que les punir. On a besoin de cette punition. Une société qui ne sait pas sanctionner n'a pas de bonne base.
Mais après, on ne peut pas en rester là.
Mais bien sûr. Et puis surtout, il faudrait faire un gros travail donc, en amont sur l'éducation, sur des bases même morales. On fuit la morale à l'heure actuelle, comme si c'était de la peste. Ben moi je dis non, hein. Le vrai c'est le vrai, le beau c'est beau, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal.
Et il y a la vérité, hein, c'est
la vérité. Mais on ne veut pas. Alors on reste flou. Alors on s'étonne, on s'étonne que la société bascule. Mais on a suscité ce basculement parce qu'on n'a pas voulu être courageux. Et maintenant, pour rattraper les choses, c'est très difficile. Ça ne sera pas facile.
Alors donc, on a besoin justement de courage, mais se baser aussi sur... C'est pour ça que la miséricorde est indispensable, parce que l'homme, avec cette bonne volonté, ses forces, mais avec ses forces humaines seulement, ça n'est pas possible, parce que c'est trop...
C'est insuffisant.
Insuffisant.
Et la miséricorde est un outil... Un outil, pour moi, de justice. Hein. Le fait d'avoir de la compassion, le fait d'avoir de la clémence, le fait d'effacer l'ardoise, c'est une manière aussi de toucher la personne qui a fauté, où là, elle se sent aimée, et à cause de cet amour reçu, elle va pouvoir évoluer, passer de la haine à l'amour et ne plus recommencer des actes, des délits, des actes mauvais. Hein. Alors là, la société a un très gros travail à faire. C'est pas évident parce que d'un côté, il y a des gens qui réclament une dureté. Une dureté totale envers les jeunes qui fautent.
Oui, mais il y a une incompréhension.
Il y a une incompréhension. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont des fibres d'éducateurs et qui ont mieux compris les données du problème et qui sont certes pour une certaine fermeté, mais aussi pour une certaine clémence.
Bien sûr.
C'est vrai qu'un jeune qui n'a pas eu un père et une mère comme tuteur, comme éducateur dans sa vie, ce jeune-là...
Il n'a pas de base.
Il est à la rue, il n'a pas de base. Bon, comme il n'a pas de base, il fait n'importe quoi. Alors ça, il faut en tenir compte. Alors, je pense que certains juges en tiennent vraiment compte, se renseignent sur le passé de la personne qui a fauté. Mais alors, il y a les victimes aussi, et je comprends les victimes. Parce que si on est trop clément, les victimes vont dire, mais c'est quoi cette justice, elle est pourrie. Hein?
Oui, mais c'est pas être laxiste, être clément.
Mais bien sûr. C'est pas être faible, c'est être fort.
Mais ça demande les moyens, justement, c'est ça.
Voilà.
C'est pas...
Des moyens, or, c'est bien ce qui manque à l'heure actuelle. Les conseillers d'insertion et de probation qui travaillent dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, sont en nombre totalement insuffisants, ont à traiter 100 à 200 dossiers à la fois. Vous imaginez 100 à 200, moi j'écoute en permanence 50 personnes. Je peux pas aller au-delà. 50 personnes, et là je peux faire du bon travail. Eux, ils ont 200 dossiers et des cas lourds. Mais ils peuvent pas vraiment bosser.
Ils gèrent comme ils peuvent.
Alors, ils deviennent un peu bureaucrates, ils traitent de la paperasserie et ils s'en plaignent. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait, je veux dire, pour changer ces situations. De même que moi, je pense que dans les maisons d'arrêt, il devrait y avoir un ou deux éducateurs
c'est ce que je pensais, voilà,
qui tournent en permanence aux étages et qu'on peut voir dans l'heure. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les maisons d'arrêt ? On veut rencontrer un éducateur, on veut rencontrer quelqu'un pour être aidé. Ben, oui, mais il y a une liste d'attente. Ben, ça peut durer 8 jours, 15 jours. Ben, oui, mais en 15 jours, le mal sera fait. Après, le gars, il aura mis feu à son matelas, ou il aura tué un autre détenu, ou que sais-je.
Voilà. Il y a besoin d'éducateurs, d'un nombre plus grand d'éducateurs.
Mais bien sûr, Il n'y a pas que la répression qui compte. Il y a la prévention et l'éducation. Et là, alors, il y a tellement de chômeurs. On peut créer des postes.
Et donner des formations.
Bien sûr.
Voilà. Parce que là, il y a des besoins.
Mais il y a des besoins énormes. Et c'est encore la société de demain qui se prépare en prison. N'oublions pas que ces jeunes qui vont ressortir comme des fauves vont dévorer les autres à la sortie.
Merci, pasteur Philippe Osney. Nous allons écouter, puisque nous sommes... Nous parlons de la miséricorde. C'est vraiment elle seule qui, dernière, ultime planche de salut, la miséricorde de Dieu pour notre humanité. On va écouter tout de suite, c'est l'ensemble Concerto Italiano et c'est le Magnificat, un extrait du Magnificat de Vivaldi, cette fois-ci, le Andante Molto et Misericordia.
Radio Notre-Dame.
C'est l'ensemble Concerto Italiano de pour cet extrait eh bien, du Magnificat de Vivaldi.
C'était magnifique.
Miséricorde,
hein,
c'est beau.
C'est
hein.
Une profondeur.
Oh, ouais, mais on sent ben, justement la douceur de la miséricorde qui coule. Voilà, donc ce soir, nous évoquons la miséricorde. Car sans la miséricorde de Dieu, nous resterions si misérables. Alors c'est donc le thème et on invite nos auditeurs à nous rejoindre hein, au 01 56 56 44 00. Nous avons en ligne tout de suite Attika. Bonsoir Attika.
Bonsoir Chantal. Pasteur Philippe, bonsoir.
Bonsoir Attika.
Bonsoir, je vais vous interroger sur un thème bien précis. S'il vous plaît Chantal, que devient le père Guy Gilbert ?
Ben, il sera là demain.
Hein. D'accord.
Il est là régulièrement. Hein.
Normalement, d'accord. Bon. Alors, merci.
Il faut écouter le mercredi.
Ben c'est vrai, d'accord. Ouais. Les oiseaux chantent et tout ça, les poissons et l'homme prie.
Oui, ben c'est le mercredi, ça.
Allez, d'accord. Pasteur ?
Oui.
Oui, on est tout écoute. Tout
voilà. L'œuvre magistrale de Victor Hugo, vous connaissez bien, Jean Valjean. Bagnard qui sort du bagne.
C'est ça, oui.
Ça rejoint un peu de quoi vous parliez toute la soirée.
Oui.
Et donc, Jean Valjean est touché par la grâce de ce prêtre.
Voilà.
Il le reçoit pour une soupe et un bout de pain.
Oui, oui.
Et il veut payer, hein. C'est pas gratuit, il veut payer Jean Valjean. Il trouve personne dans le village pour... Tout le monde lui ferme la porte.
Oui.
Il y a ce prêtre qui lui ouvre la porte. Et Jean Valjean s'enfuit dans la nuit avec les chandeliers, enfin des choses de valeur. Hein.
Oui, qu'il a volé chez le prêtre.
Chez le prêtre.
Pardon ?
Qu'il a volé chez le prêtre, c'est ça ?
Il a volé des choses, des cuillères en argent, et la police municipale l'arrête. Il ramène Jean Valjean chez le prêtre. Et le prêtre, vous savez ce qu'il dit ? Ben, vous le savez, j'aimerais le dire parce que c'est beau, de la part de Victor Hugo.
Ouais.
Le prêtre lui dit : mais non, il n'a pas volé. Tenez, mon bon monsieur, prenez encore les chandeliers, vous n'avez pas tout pris. Et ce bagnard, il est tellement touché par la compassion, la miséricorde de cet homme, de ce prêtre. Il devient bon à son tour. Et le petit Gavroche, dans la forêt, il a sa pièce de un sou qui est sous son pied à Jean Valjean. Et il lui dit, monsieur, c'est ma pièce. Il dit, vous êtes un voleur. Et puis, c'est beau, hein. Je veux dire, après, il va sauver Cosette. Et il va faire beaucoup de bien dans sa manufacture. Il va sauver... Enfin, il va donner du travail à des femmes et la mère de Cosette. Enfin...
Oui.
Donc, cette œuvre magistrale de Victor Hugo illustre bien de quoi on parle ce soir.
Tout
ça veut dire que quand un être désespéré... en galère, tout simplement, il rencontre la bonté chez un homme, quel qu'il soit.
Oui.
Ça le touche et c'est contagieux. La bonté est contagieuse.
Oui. Il y a une vraie conversion hein, de sa part. Et
oui.
Il y a un retournement et puis après, il fait le bien, oui.
Oui, parce que Jean Valjean, à sa sortie de bagne, il est comme une bête et un animal.
Mais oui.
Ce prêtre le convertit à la bonté.
Oui.
Parce qu'il ne l'accuse pas d'avoir volé. Il lui dit, prenez encore tout le reste, c'est pas assez ce que vous avez pris. Mais malheureusement, dans notre société, c'est pas comme ça que ça se passe.
Mais non.
Et la bonté, vous savez, il n'y a pas besoin d'être chrétien ou d'être religieux ou d'être... La bonté, c'est... Des fois, dans la journée, il y a peut-être quelqu'un qu'on rencontre au hasard de la journée et qui a besoin de parler ou qui a besoin de n'importe quoi. Et la bonté, c'est contagieux. Moi, j'y crois à ça, mon père.
Mais oui, oui.
Oui.
Et, c'est parce que des parents sont bons, par exemple, que des enfants peuvent le devenir également et suivre leur exemple.
Oui,
oui. Tout à fait vrai.
En tout cas, merci de ce témoignage, hein, tout à fait approprié. Hein, c'est tout à fait dans ce que nous évoquons.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée aussi à vous, Attika.
Au revoir.
Voilà, ben voilà un exemple.
L'efficacité de la miséricorde. Comme je disais, exercer poser un acte miséricordieux,
ben voilà,
ce n'est pas poser du tout un acte faible. C'est vraiment, j'allais dire, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Et je me souviens de ce pasteur américain David Wilkerson, il est décédé maintenant, il y a quelques années, mais quand il était jeune pasteur, Il a été à l'origine de la conversion fulgurante de plein de chefs de gang à New York.
Oui, oui, oui.
Et il a dit à un moment donné à Nicky Cruz.
Ah oui, c'est ça.
Nicky Cruz était terrible. Il était rempli de méchanceté. Ouais. Et il voulait tuer. Et donc.
La croix et le poignard, je crois.
Oui. Alors Wilkerson se tourne vers Nicky Cruz et lui dit. Tu pourrais maintenant me couper en 1000 morceaux que chaque morceau te dirait toujours je t'aime. Boum, voilà. Ça aussi. Alors c'est une parole qui a transformé ce chef de gang qui est devenu ensuite évangélisateur.
Ben oui.
Et il a voyagé dans le monde entier pour prêcher l'évangile.
Comme quoi, un retournement complet.
C'est ça. Et donc la miséricorde, c'est... Comme on disait au début de l'émission, c'est jeter une corde dans la misère. Peu importe ce que ça sera, il faut que le cœur de l'autre soit touché par la bonté, par la grâce.
Ouais.
Et cette grâce devient comme une levure ensuite, qui fait lever toute la pâte, mais complètement différemment d'avant.
Ouais.
Alors, c'est important d'en parler de la miséricorde. Et on disait aussi au début de notre émission que la miséricorde, c'est de la pitié qui amène au pardon. Alors moi, j'ai fouillé dans mon dictionnaire aujourd'hui, et puis j'ai lu ceci. La pitié, c'est un sentiment de sympathie lié à la souffrance ressentie par autrui, et c'est de la compassion. La compassion, c'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui, et poussé à y remédier. D'où le besoin de ce mot, ainsi que de celui d'empathie.
Oui.
Donc, pousser à y remédier.
Oui.
La miséricorde, c'est un acte qui va transformer l'autre. Transformer. J'ai pris le train pour venir ici à Paris, depuis Lyon, donc c'était cet après-midi. Et la dame qui était assise à côté de moi m'a dit « Ah, c'est gênant, je voulais une place côté couloir. » Et là, j'ai pris mon billet trop tard et j'ai côté fenêtre.
Et vous étiez...
Alors, moi, côté couloir, je prends toujours côté couloir à cause de mes jambes. Et puis, on peut plus facilement se lever quand on a besoin d'aller dans le couloir. Alors, elle était surprise parce que je me suis occupé d'elle, je ne la connaissais pas du tout. Et j'ai dit « Mais attendez, on va bien trouver quand même... » une place vide. Alors, on a attendu que le train démarre de Lyon. Moi, je suis resté debout et j'ai cherché. J'ai dit, madame, vous voyez là, à deux rangs, il y a une place vide côté couloir. Elle me dit, mais asseyez-vous. C'est pas grave. J'ai dit, mais attendez, on va... Et alors, je suis resté debout et j'ai vérifié qu'en effet, après le départ du train, personne n'occupait cette place. J'ai dit, mais allez-y donc. Puis alors, je lui ai mis son imperméable sur le...
au-dessus.
Et je pense qu'elle a dû se poser des questions. Alors, j'en parle, c'est pas pour parler de moi, mais...
Oui, c'est une attitude qui est pas... Voilà,
je me sens de plus en plus poussé maintenant dans cette société égoïste où se parler, c'est presque une infraction.
Oui.
On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est pas clair. Ben moi, je parle à tout le monde et il y en a qui me le reprochent et qui ne peuvent pas rester longtemps auprès de moi. Parce que dans les magasins, partout où je suis, dans un bus, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde, ce qui m'a valu des contacts extraordinaires. Extraordinaires. Et là, j'ai vu ce que c'était que la miséricorde. Parce que quelquefois, j'ai posé des actes. La personne, elle était baba. Elle ne comprenait pas. Mais moi, je le faisais au nom de mon Seigneur, que j'aime.
Oui, oui.
Et j'ai vu chez les gens, ensuite, une transformation. Ils me disent, oh, merci beaucoup.
Oui,
je dis, mais non, c'est naturel. Et je crois que si on s'y met tous un petit peu, à la boulangerie, dans le train, dans le bus, partout, même sur le trottoir, un petit mot. Hier, j'ai croisé une dame. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas du tout, cette dame. Une dame d'un certain âge. J'arrive, je la croise, et en la croisant, je lui ai dit « Bonjour, madame, et bonne journée. » Elle était complètement stupéfaite, et elle m'a dit « Vous aussi. » Et j'imagine, en continuant à marcher, elle a dû se dire « Mais qui est-ce qui m'a dit bonjour comme ça ?»
Et tu vas se créer une bonne journée comme
alors,
ça.
Alors, moi, je m'en fiche maintenant de ce qu'on va penser de moi.
Et ces petits actes posés qui...
J'ai tourné une page maintenant dans ma vie, à mon âge. J'ai tourné une page et je sème maintenant des petites choses. Alors, mon pharmacien, maintenant, je connais son prénom. je me prépare. Et quelquefois, il est devant son officine. Eh bien, quand je vais passer la prochaine fois... Je lui dirais, comment ça? Bon, je ne dis pas son prénom, mais je lui dirais. Je vais inventer un prénom, admettons Patrick. Je lui dirais, alors Patrick, ça va? Les gens sont surpris. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à eux.
Ben oui.
Et sans arrière
façon,
penser.
Et d'une façon personnelle, enfin.
C'est ça.
Voilà, pas anonyme. Voilà. Enfin, oui. C'est...
Alors, l'autre jour encore, quelqu'un est venu vers moi. Alors, je vais pas dire où c'était tout, parce que bon, ben voilà, il y a confidentialité. Et cette personne, c'était la troisième fois que je la voyais, dans un lieu neutre, hein, c'était pas du tout dans une église. Ben, elle est venue me trouver, et elle m'a dit, voilà, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut parler? C'était à mon tour d'être étonné. Hein.
Ah ouais.
Mais on peut avoir un impact, par des petits gestes, des petites choses, un impact de nos jours, qui est loin d'être négligeable. De nos jours où le bien et le mal se côtoient, en s'opposant maintenant. C'est les ténèbres et la lumière qui s'affrontent et c'est visible à l'œil nu.
Donc il faut poser des actes du côté de... Des petits actes d'amour, du côté de
l'amour,
la lumière.
Enfin, du bien, voilà.
Alors, petit, c'est pas...
Quand je prends le bus, je me rapproche du conducteur, je dis comment allez-vous, c'est pas trop dur votre métier, etc. Et les langues se délient.
Oui.
Ils disent leurs problèmes, les gens. Et puis, j'imagine les pèlerins d'Emmaüs, là, hein, le récit biblique, c'était comme ça, ils étaient en chemin.
Ben oui, c'est ça.
Ils se sont mis à causer. Oui. Alors, il faudrait plein...
Et Jésus entre en conversation.
Voilà,
et... voilà comment...
À la gare, l'autre jour, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et je vais être très court, là. Mais extraordinaire. C'est une jeune femme qui est tombée. Elle est tombée, une jeune femme de 25-30 ans. En plein milieu de la gare, là, elle tombe. Elle a dû buter contre quelque chose. Ben, j'ai vu cette dame qui était à côté de moi courir... aller la relever et s'occuper d'elle et lui dire ça va aller, vous êtes sûr que ça va, tout ça. Elle s'est bien occupée d'elle.
Le bon samaritain.
Et j'ai dit, mais mon Dieu, mais quelle beauté.
Oui.
Quelle beauté dans la société de requins dans laquelle nous nous trouvons, où il n'y a plus que l'argent qui compte, hein, les intérêts personnels. Mais des actes comme ça sont merveilleux.
Et ça ressort d'autant plus qu'on en est étonné, mais on se dit, c'est magnifique. Voilà. Dieu merci, ça existe.
C'est ça.
Encore.
Alors, la miséricorde, donc, c'est un petit peu comparable à cela. Hein. Moi, je parlais de ces actes que je vois tous les jours. C'est de l'amour. Mais la miséricorde, c'est carrément aller plus loin que l'amour à l'état brut, j'allais dire.
Oui.
C'est carrément
devenir... Se pencher sur la misère.
Oui, puis on devient injuste, mais d'une bonne injustice. C'est-à-dire qu'on va décider de remettre le péché de la personne. Hein.
Mais là, quand elle est tombée,
on
c'était pas un
non,
pauvre...
Mais la miséricorde, alors, ça va plus loin. C'est vraiment aider la personne qui vient de fauter.
Oui, c'est ça.
Mais en posant sur elle un regard miséricordieux. Oui. Elle le sent.
Qui relève.
Elle le sent et elle va faire des progrès.
Un grand merci, pasteur Philippe Osenet. Donc, je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Et bien, pour nous dire aussi des actes de miséricorde que vous avez posés ou que vous avez reçus aussi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour un magnifique partage. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 15h, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
Après le succès d'Oura, ils reviennent pour vous faire vivre une aventure unique et hors du temps. Malka. Malka, c'est la vie d'un enfant, simple berger qui triompha de Goliath. Malka, c'est l'histoire d'un roi, poète, musicien et bâtisseur. C'est la force du guerrier et la faiblesse de l'homme. Malka, la vie du roi David dans une fresque musicale de plus de 1000 ans à voir en famille absolument. Rendez-vous les 10 et 11 janvier 2015 au Palais des Congrès de Paris et sur malka.fr. Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir, en compagnie du pasteur Philippe Osney, nous évoquons, qui a été entre autres aumônier de prison, donc voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de la prison, nous évoquons la miséricorde, car sans la miséricorde de Dieu, nous resterions si misérables. C'est le titre que nous avons donné à cette émission. Nous vous invitons à nous rejoindre avec vos témoignages, voilà, au 01 56 56 44 00. Et nous avons en ligne tout de suite Stéphanie. Bonsoir Stéphanie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir pasteur. Ah, ça me fait bizarre, je ne m'attendais pas en fait.
Ah bon?
Oui.
Bah voyez, hein, on est surpris.
Oui, bah oui, surtout que j'écoute rarement l'émission en fait. Bon, je suis désolée pour pasteur, mais je pensais en fait tomber sur le père Gilbert.
Ah non, on est mardi aujourd'hui, hein.
Le père, oui, Gilbert, non, c'est parce que en fait j'ai un cœur particulier, c'est comme je fais partie de la branche rock chrétien, donc voilà, en fait quand je le vois, je me sens acceptée.
La branche quoi, j'ai pas compris.
Rock chrétien. Donc en fait
voilà, rock chrétien, c'est ça.
Oui.
Ah bah donc, oui, bien, oui. Oui.
Et quand alors... je me sens acceptée, donc j'écoute souvent les messages et ça me fortifie, quoi.
D'accord. D'accord.
Oui.
Alors
En fait, j'appelais parce que du coup, j'ai allumé sans m'y attendre.
Mm-hmm.
Et je suis revenue sur la station. Excusez-moi, je suis un peu...
un peu émue, mais remettez-vous, ça va bien se passer.
En fait, j'appelais parce que le thème, il m'a vraiment touchée. Je m'y attendais pas. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2010, j'étais placée dans une formation parce que je voulais faire du son,
oui,
tout ce qui est sonorisation, tout ça.
Mmh.
Et en fait, donc, on m'orientait avec la mission locale pour adultes sur une formation qui concernait le son. Et je me suis retrouvée avec une majorité de délinquants. Et dont un homme qui m'a rendu la vie infernale, qui avait fait de la prison pour visiblement viol.
Oui.
Et donc ça a été infernal. Les deux premiers mois, ça s'est bien passé. Puis finalement, j'étais la seule fille.
Mmh.
Et évidemment, la seule chrétienne, en plus pratiquante. Hein,
dans cette formation, c'est ça?
Oui.
Donc parmi les élèves, oui, si on peut dire, ou les étudiants.
Oui, oui, oui. Je m'en suis jamais cachée d'ailleurs.
Mmh. Bah, c'est très bien.
Parce que je pensais qu'il fallait justement... Enfin, je n'étais pas évangélisée, mais je m'en suis jamais cachée, quoi.
Mais oui, mais d'ailleurs, juste une parenthèse très courte. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais Jésus-Christ est mort publiquement sur la croix.
Hein,
donc, par séquence, n'hésitons pas, nous, publiquement aussi, à affirmer notre foi. Et j'ai trouvé que c'était juste. Allez, je ferme la parenthèse, parce que c'est à vous la parole, Stéphanie.
Non, non, c'était une bonne parenthèse, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas retenir, en fait.
Mmh.
Même le fait que je sois partie dans cette branche chrétienne, c'est pas un hasard, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient démonstratifs, et moi, j'aime les chrétiens démonstratifs.
Ah,
c'est comme si, dans cette branche, j'avais le droit, entre guillemets, de crier ma foi et de l'afficher sur des t-shirts. Enfin, ils sont vraiment démonstratifs, quoi. Donc, voilà. Pourtant, je ne m'habillais pas. Maintenant, depuis ce qui s'est passé, je suis devenue très sombre. Maintenant, je suis dans la branche métal chrétien, donc j'ai monter d'un grade, entre guillemets. Et justement, c'est par rapport à ça, je sais plus où j'en suis, parce que ça s'est très mal passé, j'ai été victime de harcèlement sexuel, enfin bon, d'insultes, parce que j'étais la seule fille, parce que j'étais chrétienne, et donc, ça s'est fini, personne ne voulait m'entendre, quoi. Mmh. J'ai été convoquée, évidemment, pour me demander si j'étais une sorcière. C'était passé dans n'importe quoi.
Mais convoquée par les responsables
de la formation. C'est ça?
Oui, de mission locale adulte, quoi. Et c'est passé dans du n'importe quoi. Personne n'a voulu vraiment entendre ma souffrance. Mmh. Et donc, du coup, l'année d'après, je me suis enfoncée. Je faisais que pleurer, manger, incapable de retravailler. Et puis, mon cœur a changé. Mmh. Et donc... je sais plus comment faire, j'ai perdu en discipline, j'ai perdu pied surtout, quoi. Je me vois grossir à vue d'œil, je me vois m'assombrir, je deviens détestable,
et c'est peut-être
et j'ai de
parce
la haine
que...
contre les prisonniers. Et c'est, oui. Voilà, j'en suis. Et je sais pas comment me sortir de ça.
Alors,
j'ai eu beau pardonner, mais...
Oui, il faut pas prendre, si vous me permettez un conseil, il faut pas prendre sur vous toutes ces choses-là. En fait, vous êtes comme un paratonnerre, là. Et en fait, le paratonnerre, je veux dire, il y a la foudre qui tombe dessus. Et je ne suis pas un spécialiste de la question, mais l'électricité s'en va dans le sol. Hein, oui. et part de ce paratonnerre. Donc vous, ce que vous devez apprendre, c'est à ne pas prendre sur vous toutes ces choses-là. Les haines de ces gens-là et tout ce qu'ils peuvent dire. Faut que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ne devenez pas le réceptacle de ces choses-là, parce que sinon, elles vont vous empoisonner.
Oui, et démolir, oui.
Démolir.
Ça m'a empoisonné, ça m'a.
Oui.
J'ai l'impression que ça m'a démoli, même mon cœur en a changé.
Voilà.
Mais le problème, c'est que j'ai essayé, mais c'est comme ça que je suis. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça a été comme ça pendant toute la durée. Ça a duré
c'est
presque
ça.
Un an.
Mais ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez une personne qui vous écoute régulièrement à partir de maintenant et auprès de qui vous pouvez vider votre sac par rapport à votre souffrance. Parce que là, vous êtes en danger. Hein, parce que vous avez pris sur vous tout ça. Ça s'est accumulé. Hein, la coupe est pleine. Et puis là, vous êtes prête à exploser. Vous voyez,
oui.
et vous êtes dans une phase un peu de destruction, bon peut-être pas si importante, mais...
Si, il y a quelques jours, j'ai failli commettre le pire.
Ah oui, donc là, il vous faudrait être écouté, donc je ne sais pas si vous pouvez trouver dans votre entourage ou dans votre ville, dans votre quartier, une personne, un psychothérapeute ou une personne professionnelle qui va vous écouter régulièrement. Vous savez, ça vaut le coup. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais ça coûte cher. Bah oui, mais quand on achète une voiture, ça coûte cher aussi, etc. Bon, donc, il faut se donner les moyens. Mais là, vous avez besoin d'être écouté. En quelque sorte, c'est normal, vous avez tout pris sur vous.
Oui, bah oui.
Or, quand on s'occupe de délinquants et de personnes qui ont des gros problèmes, il faut toujours savoir prendre une distance.
Mais je m'en occupais même pas, j'étais dans l'information quand même, je m'attendais même pas à me retrouver avec eux. Je me suis demandé en quelque sorte, en fait on s'est occupé de leur insertion, leur réinsertion, je sais pas comment
vous
dites justement, j'ai écouté ce que vous disiez, mais en fait moi on m'a complètement...
Oui, parce que vous n'étiez pas dans ce cas-là, mais vous avez été dans ce bain-là. Et ils sont tombés sur vous, quoi. Et ils ont déversé sur vous.
Bon, en tout cas, ce ne sont pas les responsables de cette formation qui vous ont fait ça.
Eux-mêmes, ils n'ont rien voulu entendre. J'ai l'impression que. Bah,
c'est-à-dire que.
Ils complètement. Ils avaient beau voir et entendre ce qui
oui,
se passait.
Ils pouvaient
même
peut-être.
Dans les salles de cours,
Oui, mais ils ne voulaient peut-être pas prendre parti pour créer ensuite des divisions.
J'étais quand même frappée. C'était loin.
Ah oui. Bon,
ben
en
oui.
tout cas, il vous faut prendre de la distance. Hein. Pour l'instant, il ne faut plus vous occuper de ces personnes-là.
Vous êtes toujours en formation, là?
Non, ça s'est fini
fin
2010, mais ça a été dur, quoi.
Oui, c'est ça, parce que vous en avez porté encore les...
2010,
ce que
disait Chantal.
C'était vraiment même des menaces. Oui, voilà. Où t'habites, nanani. Enfin,
vous avez besoin de vous reconstruire,
à l'heure actuelle, encore, il y a des menaces, à l'heure actuelle?
Non, c'était tout ça,
c'est fini.
2010.
Oui. Bon, alors maintenant, ce qu'il vous faut, c'est vous reconstruire. Bon, c'est pas étonnant, vous avez tout pris sur vous, ça c'est classique. Hein. Vous avez tout pris sur vous, et puis vous avez croulé sous le poids de tout ça. Alors, il vous faut maintenant une personne qui soit votre accompagnatrice ou accompagnateur pendant quelques mois, et tout vider votre sac. Et puis, après, il ne faut plus y penser. Mais il faut que ça sorte. Il ne faut pas refouler.
J'ai essayé d'en parler, mais on dirait que personne ne veut entendre, en fait.
Choisissez.
J'ai même été voir les autorités. Enfin, j'ai tout fait. Personne ne dirait que...
Mais choisissez une...
Même n'a pas été prise, quoi.
Choisissez une personne professionnelle.
Oui.
De bon niveau, qui a une bonne expérience et qui vous écoute et qui va cheminer avec vous pendant tout un temps, de manière à ce que vous puissiez sortir de tout ça. C'est difficile, une situation comme ça.
Et comme vous êtes chrétien, un psy chrétien, c'est...
Ben oui.
Qui puisse, justement,
vous étiez... Et il n'y a pas de honte.
C'est ça, en fait, surtout chrétien, parce qu'ils peuvent comprendre.
Voilà.
D'autres ne peuvent pas comprendre, mais j'ai aussi besoin de partager ça.
Bien sûr.
Et c'est vrai qu'en entendant votre témoignage tout à l'heure par rapport à la dame dans le train, ça m'a fait quelque chose, parce que j'étais comme ça avant, et je me rends compte qu'il y a une bonne partie de ça qui est partie. Quoi.
Oui, et c'est normal. Non, c'est parti parce que vous avez été déçu. Vous avez tout pris dans la figure. Et vous êtes comme assommé maintenant, comme paralysé. Mais ce beau cœur que vous avez, ce cœur enthousiaste, ce cœur qui ne demande qu'à donner aux autres, à écouter. Alors, il est toujours là en latence. Bon, il se trouve que pour l'instant, c'est un petit peu... Il y a une paralysie, mais ça va revenir.
Oui.
Il faut vous entourer, là. Il ne faut pas rester seul. Et encore une fois... N'ayez pas honte, c'est ce qui vous est arrivé, ça arrive à beaucoup de personnes qui se lancent comme ça au début, mais qui, la caractéristique, c'est qu'on est tout seul. Et il y a des choses qu'on ne peut pas porter seul. Faut être en équipe.
Oui, je devais juste être formée, et puis en fait, je ne m'attendais pas à ça, c'était juste pour avoir des bases. Pour espérer dans une école, et puis je me suis retrouvée mélangée.
Mais
même des gens m'accusent en disant « Oh, mais tu sais très bien qu'il y a des gens et tout dans ce milieu-là. » En fait, toutes les accusations sont tombées sur moi, c'est moi qui les cherchais, quoi. J'aurais pas dû aller dans cette branche, en quelque sorte.
Oui, ça n'a rien à voir avec la branche que vous avez choisie. Il se trouve qu'il y avait des personnes qui étaient formées en même temps que vous, qui n'allaient pas bien. Mais il faut continuer votre orientation, votre travail, mais maintenant être écouté et rebâtir dans la confiance. Et la prochaine fois, ne prenez... C'est une erreur que j'ai commise, moi aussi, au tout début, où j'écoutais, j'aidais plein de monde, je prenais sur moi. Et puis patatrac, on est fragile, on est des êtres fragiles. Et maintenant, je travaille en équipe. En équipe, toujours.
Oui, en équipe, mais j'étais toute seule, j'étais formée comme eux.
Si vous voulez, maintenant...
J'ai vécu ça aussi, donc il n'y a pas de reproche à vous faire.
Je ne m'y attendais pas, en fait, parce que ça s'est bien passé les premières semaines, et puis d'un coup...
Et vous êtes sur Paris, vous êtes dans une ville, village.
En région parisienne.
En région parisienne, là où vous êtes, en région parisienne. Essayez de voir dans l'endroit où vous êtes un psy.
Oui, c'est indispensable. Vous êtes en danger, et je ne suis pas du tout pessimiste. Moi, je sens en vous, il y a une source en vous, on sent cet enthousiasme.
On
sent aussi ce cœur d'enfant. Il y a aussi un cœur d'enfant qui est très beau.
On le sent.
Et ça, alors maintenant... Vous
qui est blessé, là. Qui est
voilà,
blessé,
vous êtes blessé. On y passe tous, j'allais dire, quand on a votre profil. En plus, vous êtes certainement très sensible.
Généreuse.
Alors, maintenant, ce qu'il faut, c'est tourner la page. Ne regrettez rien.
C'est une expérience, malheureusement.
Ça va vous vacciner pour les fois suivantes, où vous prendrez un petit peu plus de distance.
Mais ça s'apprend aussi.
Ça prend.
La personne que vous allez pouvoir trouver va pouvoir vous aider à ça. À prendre du recul, voir comment réagir à ça.
Oui, et puis il faut solder le compte, quoi.
C'est-à-dire
vous pouvez pas rester. Stéphanie, vous pouvez pas rester, je veux dire, dans une situation où vous allez ruminer tout ça tout le temps. Vous voyez.
Non, il faut sortir de là.
Oui, c'est pas tout le temps, mais je vois l'état, par exemple, de mon appartement, ça me rattrape, quoi. Je comprends pas. J'étais assez ordonnée, assez carrée, et là,
Que vous pensez que vous faites une dépression? Est-ce que vous avez pensé à ça?
Visiblement, je crois qu'on m'avait dit que ça pouvait passer une dépression, parce que il y a des fois, je me pouponne, comme on dit, quoi. Je suis coquette un petit peu. Donc on m'a dit non, généralement les dépressifs, ils se laissent aller,
Mais c'est pas une dépression larvée, ça peut être larvée, vous voyez, c'est une blessure. Et donc, il y a besoin d'une guérison.
En tout cas, si vous avez des pulsions de mort régulières, oui. des pulsions morbides, oui. il faut consulter aussi peut-être un psychiatre. Et il n'y a pas de honte. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Hein. J'ai été suivi également. Donc, attention, si vous avez des pulsions comme ça, si par exemple, soit vous mangez trop, soit pas du tout, si vous dormez mal, si vous avez des fixations et que vous ressassez plein de choses dans votre tête et ça vous fait souffrir, vous n'avez plus de goût à rien, vous n'avez plus de volonté, vous ne faites plus votre ménage, etc. Ça peut être le signe d'une petite dépression. Hein. Donc là, il faut peut-être en parler à un psychiatre qui va vous dire... Parlez-en déjà à votre médecin généraliste.
Hein. Oui. Oh là là, le médecin généraliste, j'ai peur de ce qu'il pourrait m'envoyer...
Non, mais ça ne coûte rien de recevoir des conseils. Donc, prenez des conseils et puis peut-être consulter également un psychiatre hein, une fois pour expliquer les choses. Et il faut voir, là, c'est lui qui va diagnostiquer ce que vous pourriez avoir au niveau nerveux également parce que vous avez eu un contre-coup, hein, c'est
choc,
sûr.
Oui, oui,
il y a eu un choc nerveux.
Hein, oui,
donc là, le professionnel va mieux vous conseiller, hein.
C'est vrai, je vois la différence. Avant, c'est vrai, Avant, je m'habillais beaucoup, en couleur. On voyait que quand même, j'étais dans la branche, rock chrétien et tout. Mais j'étais très colorée, très. On me comparait toujours avec un manga. Et aujourd'hui, les gens ils poussent un peu sur le trottoir. J'ai très les gens. Je suis pleine de pics, pleine de clous.
Oui. Bon.
C'est carrément basculé.
Bon, en tout cas, gardez cette énergie qu'on sent à l'intérieur de vous-même, cet esprit pétillant, hein, cet enthousiasme. Vous êtes pleine d'énergie et d'enthousiasme, mais n'œuvrez pas toute seule. Je veux dire, ne restez pas seule. Hein, essayez d'avancer à plusieurs, hein, en équipe. Hein.
Et vous faites du rock, c'est ça?
Maintenant, je suis passée dans la branche métal chrétien. Mais non, j'écoute ou je vais en concert de métal chrétien. Et généralement, je reste dans cette branche. Je déborde pas. Enfin, je veux pas critiquer les autres hein, parce que je sais qu'après, ils vont pas trop apprécier. Mais tout ce qui est Hellfest, tout ça, je suis pas pour. Quoi. Je ne me mélange pas.
Oui, mais c'est... puisque vous faites partie d'un groupe chrétien.
Non. Non, je voulais justement apprendre la musique et tout, et avec ça, j'ai trébuché, quoi, entre guillemets. J'ai laissé beaucoup de choses, j'ai laissé le conservatoire, j'ai laissé...
Oui, mais maintenant, il faut faire mouvement inverse. Il vous faut absolument avoir des activités de groupe. Hein. Et surtout, éviter de rester seul dans ce que vous vivez maintenant, là. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il faut
c'est
vous
vrai.
Faire aider. Et c'est... J'ai dû l'apprendre pour moi qui vous parle. Hein. J'ai dû l'apprendre et à mes dépens quelquefois. J'étais trop solitaire. Et maintenant, j'ai compris ça. Et maintenant, c'est en équipe. Et j'hésite pas à demander la prière, à parler à telle ou telle personne, et dire « Oh, j'ai du mal, j'ai une épreuve, priez pour moi. » Et j'ai compris la richesse de l'équipe. Hein. Et Jésus a travaillé avec 12 apôtres.
Hein. Ah oui,
il travaillait en équipe.
Oui. Hein, oui, donc... j'ai jamais été contre l'équipe. Mais
non, mais je n'ai pas dit ça. Hein, mais
je les effraie, quoi.
Mais parce que si vous êtes quand même vous êtes dans la musique, donc des musiciens chrétiens.
Oui, mais bon...
Oui, il n'y a pas forcément beaucoup de partage, quoi, dans ce que vous faites.
Oui, je trouve beaucoup de chrétiens, mais ils sont tous dans le gospel. Je me sens vraiment... En fait, je me sens vraiment à part dans tout.
Oui, isolé.
Que ce soit à l'église, je ne me sens pas à ma place.
Oui.
Pourtant, je sais que, que Jésus est mort pour moi. Il m'a accepté et j'ai accepté aussi tout ça. Donc, j'ai voulu le suivre. J'ai renoncé à beaucoup de choses, déjà, à ma vie d'avant. Enfin, bon, vraiment... Et donc à l'église, on me fait sentir que je suis pas à ma place. À chaque fois quelque part, c'est comme si j'étais à ma place nulle part. Chez les chrétiens, je suis pas à ma place parce que vestimentairement, je ne ressemble pas. Chez les métalleux, je me sens pas trop à ma place parce que je suis une chrétienne quand même assez servante. Enfin, je me sens à ma place nulle part. Donc c'est les musiciens, oui, mais je peux pas partager tout comme eux.
En tout cas, essayez de trouver des pôles d'intérêt où pour l'instant vous allez travailler en groupe, en équipe. Ne cherchez pas non plus le groupe idéal où tout se passera toujours bien. Hein. Mais évitez de vous isoler, de vous rejeter et faites-vous suivre. Hein. Mais on, je suis passé par là aussi. On fait tous nos expériences. Hein. Donc, ce que vous m'avez décrit est le signe que vous voulez avancer, vous avez voulu avancer, mais vous êtes fragile comme moi, comme nous tous, et vous avez pris des coups. Et à cause de cela, maintenant, vous avez besoin d'une, vous avez besoin de guérir d'abord de vos blessures. Hein.
Mais quand même, les musiciens comme le groupe Glorious ou les Carmens, qui sont des chrétiens, des groupes, peuvent peut-être aussi vous aider, parce que ce sont des chrétiens, même si ce n'est pas la branche exactement dans la musique, mais ils peuvent comprendre et vous soutenir, vous aider, vous voyez ?
Oui.
Hein ? Et à trouver, vous aider à trouver la voie. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui sont quand même dans votre branche, dans la musique, même si c'est pas, ils pourront vous comprendre et puis vous aider aussi.
Oui, je vois, mais c'est vrai que ça court pas les rues en fait. Hein.
Non, mais c'est sûr.
Pourtant, je m'étais mise sur un site de métal chrétien, mais j'ai fini par le quitter parce que je retrouvais des vidéos de métal non chrétien. Enfin, c'est, tout est mélangé. Moi, c'est pas ce que je recherche. Je suis désolée pour les métal chrétiens qui peut-être qui écoutent et qui sont pas contents de ce que je dis, mais je suis désolée vraiment. On me dit que je suis trop archaïque ou
en tout cas,
que je suis trop mais je dis qu'il y a pas, il faut pas de mélange. Je suis désolée. C'est soit métalleux, soit métalleux. Chrétien, je suis désolée, mais
en tout cas, vous avez besoin d'abord d'être suivi là et de guérir. Premier objectif, hein, et ensuite de développer des relations saines et durables avec des personnes, qu'elles soient dans la musique ou pas d'ailleurs, hein, pour l'instant.
Oui, ça me convient tout à fait.
Et puis de prendre un peu de distance avec tout ça. Vous avez trop pris sur vous. Et vous vous êtes écroulé. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais, d'accord ?
Non, je me rends compte.
Donc et là, alors faites attention et pensez à vous d'abord, là. Hein. Voilà.
Oui, pour vous reconstruire,
Stéphanie. Oui, c'est vrai que j'ai passé les autres avant, moi, ça c'est vrai.
Oui, c'est classique, là,
oui,
encore.
Oui, mais bon.
On peut pas, enfin, je sais pas, je peux pas m'en empêcher.
Oui, parce que c'est en vous. Vous aimez vous donner
pour les autres. Là, vous vous occupez de vous, là, c'est important.
Voilà,
il
faut vous occuper de vous.
De la bonne façon.
Voilà, et vous pourrez aider davantage de personnes en vous occupant d'abord de vous.
Oui, voilà, bien. Stéphanie.
Bon courage, Stéphanie.
Voilà, nos auditeurs vont prier pour vous. Hein, nous allons prier pour vous pour que vous puissiez recevoir cette miséricorde du Seigneur qui va vous orienter là où vous pourrez être aidé vraiment.
Et vous guérir intérieurement. Oui. Hein, vous guérir
4 ans.
Intérieurement.
Oui. Ça fait beaucoup. Hein.
Voulez-vous que nous prions quelques secondes vraiment ? Alors peut-être après.
Non, après vous restez en ligne ?
Oui, d'accord, merci.
Voilà, vous restez en ligne, puis on vous reprend dans quelques instants.
On va prier pour vous à l'antenne.
Là, on se retrouve là, nous, dans quelques instants avec Stéphanie.
Le Monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame.
8h30, 18h,
le journal de Radio Vatican.
La CIA a bien donné de l'argent à des responsables afghans.
19h30,
le magazine.
Avant de quitter Séoul, le Saint-Père a prié pour la réconciliation.
Minuit 30,
l'actualité de l'Afrique.
Rendez-vous avec l'Afrique.
L'actualité de toute l'Église.
C'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame. En marche vers dimanche.
Bonjour, c'est Marie-Noël Tabu. Je vous propose de lire ensemble chaque semaine les textes de la liturgie du dimanche. Plus je les lis, plus je suis émerveillée par cette parole de Dieu. Vous connaissez la phrase de La Fontaine ? Labourez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans.
En marche vers dimanche avec Marie-Noël Tabu, du mardi au vendredi à 11h15 et 17h45 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, Soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc on se retrouve avec le pasteur Philippe Osnay et puis Stéphanie au téléphone. Stéphanie, vous êtes là toujours, hein ?
Oui, merci.
Voilà.
Donc, voilà. On va donc se mettre en prière pour vous maintenant. Hein, et je propose à ceux et celles de nos amis auditeurs, auditrices, de prier pour Stéphanie maintenant, qui a tellement de bon cœur, elle s'est lancée. Et puis, voilà, comme chacun d'entre nous, il y a un moment donné où tout seul, on a tendance à s'écrouler. Seigneur, nous prions maintenant de tout notre cœur, avec simplicité, celle des enfants. Nous prions pour Stéphanie, qui a appelé ici le studio et qui a partagé sa souffrance, sa douleur. Toi seul connais exactement ce qui se passe dans sa vie maintenant. Alors nous prions tous ensemble pour elle, pour qu'une grande grâce l'accompagne, pour qu'elle reçoive la force de s'en sortir et surtout pour qu'elle reçoive la sagesse maintenant de se faire aider, de ne pas rester seule. Elle a besoin d'être aidée, conseillée, écoutée. Donc nous te remercions, Seigneur, pour l'amour, la miséricorde que tu as envers elle et tu ne manqueras pas de la bénir jusqu'à son complet relèvement, sa complète guérison, sa restructuration. Et elle pourra à nouveau aider les autres, mais différemment, certainement en équipe. Merci Seigneur pour ta grâce envers elle. Et nous prions aussi maintenant, Chantal et moi-même, nous prions maintenant pour ceux et celles qui ont été touchés aussi par le témoignage de Stéphanie et qui peut-être aussi ont des difficultés en ce moment et qui auraient besoin de la prière. Alors, si vous êtes dans ce cas, eh bien, vous vous unissez à notre prière. Et Seigneur, maintenant, Jésus, toi qui nous entends, tu nous vois là, à l'instant même, eh bien, tu poses ta main maintenant sur le cœur de toutes ces personnes qui ont souffert. Elles se sont engagées, et puis patatrac. Alors, guéris-les, touche-les ce soir. Vraiment, nous appelons ton secours sur elle. Et nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces personnes consolées ce soir à cause de toi et de ton esprit. Amen.
Amen.
Amen. Oh, merci beaucoup.
Voilà, le Seigneur s'occupe de vous, hein, Stéphanie. Soyez confiante.
Oui,
soyez confiante.
Oui, bien sûr,
c'est sûr. Donc, vous allez trouver les bonnes personnes, ce qu'il faut. Voilà, soyez bien à l'écoute. Voyez, cherchez. Oui. Cherchez, vous trouverez, hein, on dit.
Oui.
Donc, voilà, c'est important, ça, pour vous maintenant. Hein,
oui.
Et surtout, ne baissez pas la garde et continuez à croire qu'il faut aider les autres. Mais il y a un temps pour tout. Hein.
Donc, voilà, Stéphanie.
Voilà.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
Vous aussi. Hein.
Vous aussi, Stéphanie. Gardez cette fraîcheur. Hein.
Oui, oui.
Gardez ce cœur d'enfant. Gardez cet enthousiasme. C'est très important. Faut pas le solder. Hein. Faut pas l'enterrer,
ça. Tellement au contraire que j'avais l'air d'une débile.
Du tout.
Le Seigneur veut, justement, vous êtes un instrument précieux hein, de sa grâce. Mais bon, quand vous serez reconstruite, vous verrez les choses. Le Seigneur a besoin de vous.
Pour, voilà.
Voilà. Vous avez sûrement une belle mission.
Je demande que ça.
Vous avez quel âge, Stéphanie, et on termine notre discussion là.
Oui,
vous avez quel âge ?
J'ai une petite voix, mais j'ai 34 ans.
34 ans, ben, vous êtes toute jeune encore. Hein
voilà. Ouais, j'ai l'impression que je suis à la fin, mais bon.
Ah non. Là, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous reposer, d'être suivi.
Oui.
De continuer à être formé et vous êtes au début de tout. Hein
oui.
Voilà.
Oui,
donc prenez votre temps. Hein, prenez votre temps. Voilà.
Allez, bonne route.
Allez, au revoir Stéphanie.
Au revoir Stéphanie.
Allez, au revoir.
Merci.
Voilà, donc.
Un sandwich.
Oui.
Un sandwich de la bonté, de l'efficacité.
Oui.
Et voilà ce qui transformera le monde.
Oui, oui. Alors, petites choses, mais par le besoin de l'autre. Quoi,
voilà, oui. Certains pourraient dire, oui, mais enfin bon, c'est tellement peu, c'est tellement rien du tout que je n'ai même pas fait ce que j'aurais dû faire. Parce que ben, ça ne transformera pas le monde. C'est faux.
Si
on s'y met tous. Hein.
Faire ce qui est à notre portée. Hein,
les petites choses voilà, qui sont...
Ce n'est pas les grandes choses, c'est les petites.
Devant nous. Oui. Et moi, il faut que je vous dise un secret, Chantal.
Oh, écoutez, personne n'écoute, alors vous pouvez
non,
le dire.
Mais non, on est entre nous. On sait très bien que personne ne nous écoute. J'ai un petit chien.
Ah, depuis deux mois.
Donnez-nous.
Soki.
Siki s'appelle.
Ah ben je, voilà, Siki.
Moi, c'est pas grave, Siki.
C'est
bon,
Siki.
Alors j'ai un petit chien et je dois le sortir 4 fois par jour. C'est incroyable. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il faut qu'on soit sur le terrain.
Oui.
C'est incroyable. Comme j'ai depuis. J'ai ce petit chien. Quelqu'un m'a dit, mais il va devenir un instrument d'évangélisation.
Surtout entre les mains d'un pasteur, comme vous.
Alors je sors 4 fois par jour. Les contacts que j'ai.
Grâce à Siki.
Voilà, parce qu'il est très très beau. C'est un tout petit. C'est un cavalier King Charles. Donc un tout petit chien. On dirait un épagneul breton, mais en tout petit. Et il est mignon comme tout. Il a des belles petites taches bien disposées sur son pelage blanc. Alors tout le monde s'arrête quand je le promène.
Oui.
Alors ben moi, qu'est-ce que je fais? Moi qui aime bien le contact.
Ben oui, ben ça.
Je parle. Et,
Puis
on se revoit, on se recroise. Voilà.
Et on se donne des nouvelles et puis on entre en relation.
Ben c'est incroyable. Alors, des petites choses comme ça, vous voyez, un chien. Petite chose, hein. Voilà, 4 fois par jour, je sors. Mais c'est incroyable, comme dans le quartier maintenant, je connais du monde.
Et vous avez des relations grâce à Siki?
Mais bien sûr, bien sûr. Et donc, pour l'instant, je ne témoigne pas trop encore de l'amour de Dieu.
Il faut préparer l'amitié. Le terrain.
Oui, oui, l'amitié est là. Et voilà, je ne vous dis pas tout, mais j'ai des contacts absolument extraordinaires. Voilà. Comme quoi, tout peut être une occasion.
Mais oui.
Hein. Demandez à votre boulangère, comment allez-vous aujourd'hui? Ou à votre médecin. Non, mais le comble. Moi, quelquefois, je dis à mon médecin, que j'aime beaucoup, je dis, comment allez-vous aujourd'hui? Mais ils sont sidérés.
Ben oui, parce que...
Des gens comme ça, qui sont au service des autres, oui. Ils sont sidérés quand vous êtes venu pour être aidé par eux.
Oui.
Tout
et
à coup,
vous adressez à... oui.
Vous leur demandez des nouvelles et vous semez dans leur cœur quelque chose.
Oui.
Voilà. Alors moi, de plus en plus, je fais comme ça. Et ça transforme ma vie. Ça transforme ma vision de la vie.
Mais je comprends.
Et c'était vous, Chantal, je crois, qui parliez de l'incarnation, c'est ça? Oui, oui.
Oui, mais dans l'incarnation.
Voilà. Et je sens qu'au travers de ce petit chien, de moi, avec mon imperméable et puis ma laisse et mes petits gâteaux pour récompenser mon chien quand il fait bien ses besoins dehors, je sens qu'au travers de ces sorties,
c'est tout simple. Oui.
C'est tout simple, mais là, il y a des grandes occasions.
Bah,
alors donc,
oui.
Saisissons toutes ces occasions.
Ben oui.
Pour soyons pas renfrognés aux caisses, un bonjour à la caissière, je vous souhaite une bonne fin de journée, ça doit pas être facile votre travail.
Mm-hmm.
Voilà, s'intéresser aux gens, hein.
Voilà.
et c'est important. Alors même si on est timide, faut prendre sur soi.
Il faut rompre la glace.
Ouais. Mais les gens sont stupéfaits. J'ai remarqué, surtout de nos jours, où c'est du chacun pour soi, hein, de nos jours, plus que jamais.
Donc ça tranche davantage.
Si, voilà, si on s'intéresse authentiquement aux autres et on leur prodigue de l'amour, il y a un sourire qui s'affiche, il y a quelque chose qui se passe.
Oui.
Et il y a un petit miracle. Et Dieu agit, j'en suis sûr.
Sa miséricorde, là, n'attend que l'occasion d'ouverture. Pour s'infiltrer.
Tout à fait. C'est la base pour quelque chose d'autre. Et je crois que Jésus serait allé dans des supermarchés, il serait allé, pas forcément beaucoup dans des églises. Et je ne suis pas anti-clérical ni contre les églises, mais on voit dans les textes bibliques.
Dans la vie, oui, ben il était...
Dans les textes bibliques, il passait son temps sur les places, dans les rues, en contact avec la population.
Tout à fait.
Et à l'heure actuelle, je suis sûr qu'il serait allé dans les supermarchés discuter.
Dans le métro, d'ailleurs, il y avait un livre, Dieu dans le métro, il y a quelques années.
Oh, magnifique ce livre, je l'ai toujours.
Oui. Hein,
il s'appelle Dieu dans le métro.
Dieu dans le métro.
Magnifique parabole pour les temps modernes. Alors...
Créons
ces paraboles de nos jours-là, créons-les, faites-le avec votre, je disais, la boulangère, le boucher,
oui.
le, Le gardien de ou la gardienne de l'immeuble, tout ça. On doit être des incarnations du Dieu vivant. Voilà. Et des signes de sa miséricorde.
Oui. Ben voilà, hein, notre vie est transformée ce soir grâce à votre témoignage, pasteur Philippe Osney.
Oh, ben c'est des petites choses.
Non,
mais justement. Je sais que plein de gens vivent ça.
Ben oui.
Des petites choses. On cherche souvent des grandes. Et parce que les grandes n'arrivent pas, on ne s'occupe pas des petites.
Ben oui, mais il faut commencer par les petites, parce que c'est là, la vie, elle est dans les petites choses. Hein.
Dans les petites choses, les petites choses. Le sourire à une personne qui est triste, etc.
C'est vivre l'ordinaire de façon extraordinaire.
Mais bien sûr, et ce monde a plus que jamais besoin de ça.
Ben, je comprends.
Plus que jamais besoin.
C'est de ça dont le monde a besoin. Et c'est ça qui peut transformer la vie, parce que là où on est chacun, c'est... Petit à petit, ça fait tache d'huile.
Oui,
hein.
L'autre jour, il y a une dame qui voit mon petit chien. Et puis, bien sûr, elle caresse le petit chien, tout ça. Et elle me dit, vous savez, hein, les chiens sont plus fidèles que les hommes. Je l'ai écouté. Hein. J'ai dit, oui, vous avez en partie raison. C'est vrai qu'il y a des êtres humains qui sont très infidèles, très instables. Et qu'un chien, quelquefois, ils sont capables de nous faire
des tours.
Oui, il y a la technique qui est en train de m'aider, là.
Alors, il vous souffle.
Des cocasseries, non ? Ah bon, c'est ce nom-là. Bon, enfin, quelquefois, il nous joue des tours, quoi.
Voilà.
Hein. Mais c'est vrai que globalement, le chien... et c'est connu pour ça, hein. Il est attaché à son maître.
Ah oui, le chien,
Et certaines personnes pensent que, le chien est plus fidèle que l'homme. Hein. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des grandes blessures derrière et des grandes déceptions des êtres humains. Voilà. J'avais affaire à une femme qui avait été blessée. Je pense que Jésus aurait écouté cette femme. Et l'aurait considérée. Donc, allons-y. Hein.
Voilà,
sortez vos petits chiens.
Je sens que vous avez un grand champ d'évangélisation devant vous, grâce à Siki.
Tout à fait. Mais ça m'avait été dit. Hein. Il y a une personne qui m'a téléphoné, qui m'a dit, écoute, je sens que ce petit chien sera un instrument de... Bon, alors je le vis là maintenant. Je le vis et c'est un bonheur.
Le petit chien du pasteur, évangélise avec son maître.
Oui,
Il ouvre la voie des cœurs.
Oui, hein, c'est un petit peu ça. Et c'est comme, vous savez, entre motards, il y a une fraternité. Entre gens qui ont des chiens aussi.
C'est ça aussi,
il y a une fraternité, je l'ai remarqué ça aussi.
Oui.
On s'ouvre plus facilement.
Voilà, c'est le petit chien qui ouvre.
Qui ouvre, voilà. Oui. Bon, donc, en tout cas, chien ou pas chien, il faut vraiment s'ouvrir, sourire à la vie, sourire aux autres et déverser vraiment l'amour et la miséricorde sur les gens. Même si on ne dit pas toujours que c'est Dieu qui le fait au travers de nous, les gens sentent quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors là, il y a Marie-Thérèse, mais elle n'a pas laissé son téléphone, mais elle disait « Une personne handicapée a laissé sa place dans le salon d'attente ». Je pense que c'est du médecin. Sa gentillesse a été contaminée, a été contagieuse, je pense.
Oui, contagieuse. Oui, contagieuse.
Hein, ça fait boule de neige. C'est exactement ce que nous disions ce soir. Il y a une ouverture qui se fait. C'est contagieux. Hein. L'amour est contagieux.
On peut transformer une vie, moi, je crois, par un regard, par un sourire, par de la bonté authentique. On peut transformer des vies, on peut toucher les cœurs d'une manière qu'on ne penserait pas. Donc continuons, Chantal.
Hein, continuons sur cette lancée.
Cette belle vie, la vie est belle. Elle est chienne, on parlait de chien. Alors elle est chienne, souvent, c'est vrai qu'elle nous joue des tours, mais elle est belle la vie.
Oui.
Et le sens de la vie, c'est d'aimer. Voilà. Aimons.
Et comme vous dites, par des petites choses du quotidien.
Absolument, absolument.
N'attendons pas je ne sais pas quoi.
Non. Commençons et soyons, comme vous disiez Chantal, une incarnation du Dieu vivant. Voilà.
Et de son amour.
Et de son amour. Il y a des besoins énormes en ce moment.
Oui. Amen.
Oui, amen. On peut dire amen, amen. Voilà.
Eh bien, merci, un grand merci, pasteur Philippe.
Merci à nous tous, quoi.
Oui, merci à tous nos auditeurs,
à la technique,
à tous ceux qui nous aident au standard. Mais oui, à tous ceux qui ont témoigné ce soir.
Oui.
à Guillaume qui était à la technique, à Daniel, à Monique.
Voilà,
qui
était, et tous ceux et celles qui nous ont écoutés.
Qui vous écoutaient au standard.
Voilà, et qui ont...
À Denis et puis à Marie-Françoise pour leur collaboration. Un grand merci à tous. Cette émission est disponible sur CD et demain, à 22h, écoute dans la nuit. Alors c'est demain que nous retrouvons, comme chaque mercredi, le Père Guy Gilbert. Et le thème de la soirée, pour nous chrétiens, la mort n'a pas le dernier mot. Et donc nous méditerons demain ensemble sur ce passage vers la vie éternelle. Je vous souhaite une très très bonne nuit à tous et je vous dis à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.